Question d'actualité du jeudi 18 avril, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation comme d'habitude. Notre invité du jour, c'est Mathieu Castonguet avec qui on va discuter de l'actualité des derniers jours. Pas du budget fédéral parce qu'on en parle demain avec Olivier Jacques, mais Mathieu, on a beaucoup quand même de choses à parler ensemble. La première, c'est Éric Lévêque, le whip en chef de la CAQ qui décide de partir chez les conservateurs. Ça annonce peut-être d'autres changements à venir dans le caucus caquiste. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Oui, ben absolument. Mais d'abord, bonjour Julien, c'est un plaisir d'être avec toi et tes auditeurs. Ben on va pas se le cacher là, c'est un autre coup dur pour la CAQ, hein, puis ça accentue une tendance qui est particulièrement défavorable ces temps-ci. Puis c'est moins le départ de M. Lefebvre en lui-même hein, qui fait mal Lefebvre. Que la fonction qu'il occupait.
Ouais.
Parce que bon, je ne vais pas me prétendre un spécialiste de la procédure parlementaire, mais on comprend bien que le poste de whip, c'est un poste charnière, tu sais, au sein d'une formation
politique
du gouvernement.
C'est tenir la discipline politique, la discipline de parti. Et dans un caucus de 95 députés, c'est plus de 90 députés, c'est quand même assez important.
Ben c'est un excellent point. D'autant plus, justement, le grand nombre de députés de la CAQ. Fait que c'est sûr que c'est un peu la pierre angulaire, si on veut, des travaux parlementaires du parti. Fait que ça arrive vraiment à un mauvais moment. T'sais. Puis la question qui brûle les lèvres, c'est y en aura-t-il d'autres? On l'a tous entendu, alors que le ministre Girard, initialement, avait fermé la porte, ben là, il a rappelé, tout en rappelant justement le cœur sur la main à quel point il aimait le Canada, ben maintenant, il ne ferme plus la porte.
Ouais.
Donc, ça va être intéressant, puis le scénario de défection additionnelle là, n'est pas écarté.
Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça dit de la santé de la CAQ actuellement? Parce que je pense que, quand même, il y a moins de 2 ans, on a un parti qui est élu triomphalement avec une des plus grandes majorités de l'histoire moderne au Québec pour les élections à l'Assemblée nationale. Et 2 ans après, il est en chute libre. On se cherche une sorte de logiciel politique pour relancer la machine. Et on a des députés de plus en plus mécontents du manque de prise en compte des intérêts dans leur circonscription. Des députés même qui sont prêts à casser la discipline parce qu'on refuse de construire un hôpital qu'on a grandement besoin dans leur région, en Montérégie ou d'autres proches de Dumanville, prenons cet exemple-là. Et là, on a un député qui parle, le whip en chef, le ministre des Finances, ministre phare, qui redevient ouvert aux sirènes conservatrices. On a Christian Dubé et Pierre Fitzgibbon qui ont bien télégraphé auprès de François Legault le fait qu'ils ne se représenteront pas. Qu'est-ce que ça veut dire de la santé de la CAQ face aussi aux sirènes du fédéral de l'autre côté pour les attirer?
Ben, ce que ça dit sur la santé du parti, c'est que pour l'instant, le parti a de l'air, je dirais pas aux soins palliatifs, mais ça ressemble quand même un petit peu à ça. Mais par contre, il faut l'admettre, il y a rien qui est joué, puis avant les prochaines élections, il reste beaucoup de temps, puis c'est surtout ça, tu sais, ce que tu as mentionné, la dégringolade depuis la dernière élection, tu sais, une décision, un résultat historique. En politique, ça change extrêmement vite, maintenant. On a déjà parlé à ton émission, tu sais, la CAQ va devoir se poser des questions sur sa raison d'être fondamentale, tu sais, parce que c'est devenu un peu, sans vouloir être trop partisan, c'est devenu un parti de gouvernement, tu sais, qui est là essentiellement pour garder le pouvoir. Pour garder le pouvoir. Puis là, la question qui sous-tend tout ça, c'est mais qu'est-ce qui va arriver aussi avec M. Legault? Avec ce qui se passe si... parce que là, bon, on a parlé du ministre Girard, mais on le sait tous, qu'on serait tous étonnés, par exemple, que M. Fitzgibbon... En tout cas, moi, c'est mon hypothèse. Évidemment, je suis pas dans le secret des dieux, que M. Fitzgibbon décide de se représenter. Qu'en est-il de Christian Dubé, maintenant qu'il va avoir réussi à accoucher de sa réforme? Qu'est-ce qui va arriver avec M. Legault? Et surtout... s'il décide, parce qu'initialement, on se le rappelle, hein, il y avait ce qu'il souhaitait faire, c'était quitter à la moitié de son deuxième mandat. Tu sais que finalement, il s'est dédié, puis on comprend pourquoi politiquement, faut pas alimenter quand même de l'incertitude comme ça. Mais la réalité, s'il décide de passer le flambeau, il va devoir le faire plus tôt que tard, hein. Puis surtout pour un parti qui a pas une grande santé démocratique la CAQ, ils vont devoir décider comment ils vont faire pour élire le dauphin, puis surtout laisser le temps à ces éventuels dauphins de faire campagne. Fait que je pense que ça remet en contexte cette question fondamentale-là de la CAQ. Que représente la CAQ aujourd'hui, puis qu'est-ce qui va arriver avec M. Legault, et surtout, que sera la CAQ, le cas échéant, après M. Legault?
Et surtout, faisons un exercice de politique fiction, c'est que face à ce départ d'Éric Lévêque, face aux rumeurs de retour pour les différents ministres, comme ministre Girard, on a aussi une Pascale Derry, qui est une conservatrice fédérale dans l'âme, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a dû réaffirmer en conférence de presse ou dans un scrum médiatique, dit que son cœur est à la CAQ, mais elle reste conservatrice, mais son cœur, elle est à la CAQ, elle est là pour gouverner et tout ça. Donc on a des questions qui vont devenir de plus en plus fortes. Mais de l'autre côté, c'est quel accueil pour ces caquistes qui décident de faire le saut en politique fédérale quand on sait à quel point, surtout chez les militants conservateurs fédéraux, que l'image caquiste peut être clivante. L'exemple parfait, c'était Girard avec la subvention des Kings, mais ça peut aller aussi avec certains militants conservateurs qui ont toujours du mal à accepter ce qui s'est passé pendant la pandémie sur les politiques liées au confinement et à la vaccination. Ces derniers ont du mal à accepter, ont du mal à voir des caquistes qui, pour eux, sont un peu le mal absolu par rapport à ce qui s'est passé depuis quelques années, faire le saut dans leur parti au parti conservateur. L'exemple parfait, c'est le possible accueil qu'Éric Girard pourrait avoir, et on a pu voir un Éric Duhaime qui a réagi d'une manière assez véhémente sur X à ce propos. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mathieu?
Ben, c'est vrai que c'est un bon point, tu sais. Puis il n'y a pas un alignement politique parfait, là. C'est une évidence entre le Parti conservateur fédéral puis la CAQ. Par contre, moi, je pense pas que le Parti conservateur lèverait le nez sur des candidats, surtout dans ce cas-ci, des élus, là, qui ont de l'expérience parlementaire. Je ne m'attends pas à une défection massive, hein. Je serais fortement étonné que des députés, par exemple, d'ailleurs, M. Lefebvre le fera pas, tu sais, démissionne, tu sais, de manière anticipée pour faire campagne pour le fédéral. Ouais. Moi, je pense que le gouvernement conservateur serait probablement bien heureux de piger quand même dans cette banque de députés-là, puis pour se constituer des candidats potentiels. Mais c'est vrai que ça va soulever des questions au niveau des orientations politiques. Et qu'en est-il, Julien, la question de la loi 21? Parce qu'on sait que le gouvernement caquiste, on se pose la question sur ses orientations politiques fondamentales, en tout cas du mois à venir, mais ce combat-là de la laïcité, il l'a mené, puis on sait que, M. Poilievre...
Monsieur Poilievre ne changera pas de politique par rapport à la possible présence du gouvernement fédéral lors de l'action en Cour suprême. Monsieur Poilievre a dit devant différentes communautés culturelles dans le Canada anglais son opposition à la loi 21. Donc il y a quand même des choses qui risquent de faire friction.
Absolument. Mais de toute façon, par contre, il y a peut-être une échappatoire possible, parce qu'on sait la CAQ, finalement, c'est la rencontre de deux courants politiques. T'sais, oui, un courant nationaliste, mais aussi un courant qu'on pourrait appeler des vraies affaires. Puis moi, j'ai toujours soupçonné ce courant-là de n'en avoir rien à faire de la question de la laïcité puis du français. Donc, je suis convaincu que ces candidats-là pourraient se recycler sans trop de problèmes là au fédéral.
Sur la question des vraies affaires, un autre sujet de la semaine, c'est l'affaire des Louboutins. Pour remettre dans le contexte nos auditeurs, France-Hélène Duranceau, la ministre de l'Habitation, a pu, dans le lancement d'un projet de logements sociaux en région de Montréal, être prise en photo au moment de cette présentation avec des Louboutins, avec la fameuse semelle rouge. Ce sont des chaussures qui valent plus de 1 000 $ pour la plupart du temps, quand ce sont les vraies. Donc Madame Duranceau s'est fait critiquer par de nombreux commentateurs, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux et ailleurs, de porter des Louboutins pour la présentation de logements pour des personnes pauvres, donc d'être déconnectée. Un autre exemple de sa déconnexion après ses différents propos qu'elle a pu avoir sur les pauvres qui devraient faire des flips et investir en immobilier au lieu de tenter de céder leur bail pour pouvoir maintenir des loyers à bas prix. Il y a pu y avoir beaucoup de critiques sur le fait qu'on s'en fout si un homme porte une Rolex, mais par contre si une femme s'habille bien, on lui tombe dessus. Il y avait eu un exemple avec Pauline Marois il y a quelques années. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique, Mathieu?
D'abord, je crois que tu as failli commettre un lapsus et l'appeler Madame Louboutin, mais bon, tu t'es bien repris, professionnel comme tu es. Mais honnêtement, Julien, je suis assez nuancé par rapport à cet enjeu-là. D'abord, critiquer une femme pour son habillement, moi, j'éprouve un malaise en général par rapport à ça. Hein. Déjà, c'est tellement difficile pour les femmes en politique. Et en plus du harcèlement qu'elles vivent, là, c'est largement documenté. Moi, je remarque en général que certaines personnes sont particulièrement mesquines envers les femmes en politique. Puis on l'a vu avec Mme Marois, mais Hillary Clinton aux États-Unis, c'était la même chose. Puis quand on ajoute à ça, en plus, la tyrannie de l'image, hein, on en exige beaucoup aux femmes, puis on s'attend à ce qu'elles se conforment aussi à des standards, des prétendus standards sociaux. Puis certaines personnes sont rapides à les critiquer quand elles s'en éloignent. Je veux pas dire, par contre, qu'on ne peut jamais le faire, là, puis je fais une petite parenthèse, parce que quand il y a eu le... Puis vous excuserez mon latin, le coton ouaté gate à l'Assemblée nationale Mme Dorion à l'époque, il y a certains des militants de Québec solidaire qui ont essayé de tourner cette situation-là un peu vers, justement, cet enjeu-là de la liberté de la femme, puis le droit à son image, etc. Dans ce cas-ci, à mon avis, c'était un enjeu seulement de respect des institutions et du décorum. Mm. Pour moi, c'était pas la même chose du tout. Mm. Mais maintenant... Sur le fond, tu l'as évoqué, là, il n'y a personne qui va confondre la ministre Duranceau avec une organisatrice communautaire. Mm. On sait d'où elle vient, on sait c'est quoi ses positions par rapport à la question de l'habitation. Puis c'est vrai de dire, puis tu l'as mentionné aussi, c'est pour ça que je suis un petit peu ambivalent par rapport à cet enjeu-là, parce qu'effectivement, est-ce qu'on aurait pu tenir des propos similaires si un homme ministre aurait fait cette annonce-là en complet trois pièces, par exemple? Mm. Probablement aussi.
Ça l'est moins quand même. On va pas critiquer. Par exemple, Éric Girard portait lors du dépôt du budget provincial une cravate qui valait des centaines ou quelques milliers de dollars. Une cravate vraiment tissée serrée de designer et ce genre de choses. Ça a été dit, mais on est resté 15 minutes dessus. On est passé à autre chose. Que pour Madame Duranceau avec des loups boutins, on a eu des un nombre innombrable de chroniques et de propos depuis le début de semaine, irrespectueux ou respectueux, en défense ou contre ces loups-boutins. À mon sens, ça montre à quel point les débats peuvent être ridicules. Il faut se concentrer sur ces idées et sur comment critiquer ces idées et sa déconnexion. Si les loups-boutins, c'est autre chose, c'est pas grave. C'est la déconnexion d'une ministre par rapport aux enjeux de logement. C'est surtout ça qu'on devrait se concentrer, à mon sens.
Ah, t'as absolument raison. Je suis vraiment d'accord avec toi que c'est les enjeux de fond qui sont les plus qui devraient mériter plus d'attention. À mon avis aussi, je suis d'accord, mais tu as raison de souligner que je pense que ça s'inscrit dans une perception qu'on peut avoir de la ministre, le fait qu'elle est déconnectée des enjeux. Ça, je suis absolument d'accord avec toi.
Et il y a une question de déconnexion des enjeux aussi, en dernier sujet que tu voulais aborder. C'était notre gouverneuse générale, notre représentante du roi au Canada, Madame Mary Simon, Mary avec un accent anglais parce qu'elle ne parle toujours pas français. Et elle a rencontré en anglais Gabriel Attal, le Premier ministre de la France, la semaine dernière lors de sa visite au Canada. Une rencontre qui montre aussi donc, l'image diplomatique du Canada, un Canada bilingue, anglais et traduction de la langue anglaise, qui continue et qui montre aussi ce continuel irrespect qui est mis de l'avant avec une perspective historique dans les derniers jours par différents responsables politiques. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Mathieu?
Ben, c'est sûr que je le déplore, bien évidemment. C'est un Canada qui évolue progressivement, qui s'éloigne de cette espèce de vision, cette espèce de dualité qu'on avait entre les peuples fondateurs francophones et anglophones. Évidemment, j'accueille, j'applaudis même les initiatives pour mettre de l'avant, tu sais, la place des Premières Nations au Canada. Mais au final, ce que ça démontre encore une fois, c'est que la question du français ou la question des peuples fondateurs, mais qui nous a quittés au rapatriement de la Constitution, mais tout de même, manifestement pour ce gouvernement-là, puis bon, je pense que les preuves se multiplient, cet enjeu-là du français et de moi. Je vais être bien honnête avec toi, là, j'ai pas tenu une conversation avec la représentante du roi au Canada, mais j'ai pas l'impression non plus que son français se soit vraiment amélioré tant que ça. J'ai pas l'impression que c'est une priorité pour elle et je m'en désole.
Et c'est quelque chose d'inacceptable parce que au-delà des autres éléments, prenons un peu dans l'aspect francophonie canadienne. On apprend cette semaine que Radio-Canada, pour question de budget, ne diffusera pas le spectacle du congrès ou la journée, le spectacle d'ouverture du congrès mondial acadien qui aura lieu cet été. C'est la première fois que ça a lieu et surtout se disant, on peut dire, ah mais c'est que l'Acadie, mais les Acadiens sont présents de partout dans le Canada et surtout ce congrès mondial représente un peu un élément assez fort pour l'affirmation de la culture francophone partout au pays et même en dehors, parce que les communautés acadiennes, on sait très bien, du fait du grand dérangement, peuvent être un peu présentes de partout en Amérique du Nord. Donc c'est aussi cette déconnexion de plus en plus chez aussi certains gouvernants francophones qui est à critiquer et qui est critiquable en ce moment. ce moment, Mathieu, et c'est quelque chose qui montre qu'on est vraiment dans un changement de paradigme, à mon sens.
Oui, absolument. Tu sais, je pense que se réfugier derrière les coupures budgétaires, bon, tu sais, c'est correct, là. Je pense que ça permet de faire diversion un peu, mais tu as raison de dire que ça incarne, tu sais, un phénomène de fond. Encore une fois, je m'en désole, mais au final, c'est le cas pour les Québécois, c'est le cas, tu sais, outre des protections constitutionnelles pour les francophones du Canada aussi. En pratique, finalement, ben, les francophones du Canada ne constituent qu'une minorité parmi tant d'autres, hein. C'est ça, le multiculturalisme canadien. Donc, elles doivent se colloquer à la suite de toutes les autres minorités. Donc, c'est dommage, puis effectivement, puis on l'a vu justement la semaine dernière aussi avec le respect, en fait, le manque de respect que les conservateurs ont accordé à M. Arsenault, justement, lui chantant God Save the King devant lui, alors que lui-même d'origine acadienne, puis bon, avec le grand dérangement, puis qui est un événement tragique dans l'histoire du Canada. Donc, Julien, c'est évidemment une tendance de fond. Je m'en désole, puis je doute que sous les conservateurs, malheureusement, la tendance ne soit renversée.
Merci beaucoup, Mathieu Castonguet, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler politique et de commenter l'actualité avec toi. Tu reviens quand tu veux, comme tu le sais. Mathieu Castonguet, analyste politique et avocat. Merci beaucoup.
Merci, Julien.
C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup d'avoir été aux antennes de Radio VM. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. À demain.